Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel pour le quart d'heure réservé aux petits. Je suis Isabelle et avec la complicité de Roland à la technique, je vous ai choisi un conte intitulé Les petits lutins. Il était une fois une petite bourgade prospère et heureuse. Chaque nuit, dès que tous les habitants étaient endormis, de gentils lutins se mettaient à nettoyer les rues et rendaient ainsi la ville propre et accueillante. Par petits groupes, les lutins entraient dans les maisons et achevaient les travaux que les habitants n'avaient pu terminer la veille. Un soir, ils entrèrent chez le menuisier et ils le trouvèrent, comme d'habitude, endormi sur son établi. Les petits hommes scièrent, rabotèrent et assemblèrent les planches avec une telle adresse qu'en un instant, les fenêtres furent terminées. Puis, munis d'échelles et d'outils, les bons petits lutins s'en allèrent placer ces fenêtres chez les villageois qui les avaient commandées. Lorsqu'ils eurent terminé ce travail, ils se rendirent chez le plafonneur. Ils travaillèrent si bien et si rapidement qu'après avoir fait le mortier, ils eurent le temps de plafonner plusieurs murs. À la boulangerie, ils allumèrent le four, pétrirent la pâte et enfournèrent les pains. Quelle bonne surprise cela allait être pour le boulanger qui bientôt s'éveillerait. Les braves lutins n'oublièrent pas les ménagères. Dans chaque maison, ils nettoyèrent le sol, firent la lessive, séchèrent et repassèrent le linge. Le boucher était un brave homme que tout le monde aimait. On venait de loin pour acheter ses préparations. Il était surchargé de travail. Alors, comme chaque nuit, les lutins profitèrent de son sommeil pour tuer et dépecer le cochon. Puis ils mirent les morceaux de viande au saloir, fumèrent les jambons et firent même les saucisses et le boudin. Tout cet ouvrage était fait avec soin. Chacun avait son rôle et le résultat était excellent. Tous les soirs, le marchand de vin était ivre et s'endormait sans achever sa besogne. Les petits lutins lui pardonnaient, car cet homme avait bon cœur. Ils se mirent aussitôt à soutirer le vin, puis ils bouchèrent les bouteilles, les étiquetèrent et les rangèrent dans le grand cellier. Le tailleur du village était un pauvre homme malade. Sa femme, qui était une vraie mégère, ne cessait de le traiter de paresseux. Terminons vite ses costumes, se dirent les lutins. Ainsi, notre brave tailleur pourra prendre du repos et se soigner. En quelques minutes, ils coupèrent les morceaux de tissu, les faufilèrent et les assemblèrent. Le lendemain matin, le tailleur se leva encore plus fiévreux que la veille. Lorsqu'il vit son travail terminé, il poussa un grand soupir de soulagement. Grâce à ces bons lutins, je vais pouvoir me remettre au lit, pensa-t-il. Mais sa méchante femme le traita à nouveau de paresseux. Je suis très malade, protesta le pauvre homme. Malade? Feignant, veux-tu dire? Rugit la mégère. Le tailleur expliqua alors que tout son travail était terminé. « Ah, je comprends. Ces maudits lutins sont encore passés. À force de faire ton travail, ils te rendent de plus en plus paresseux, » hurla la vilaine femme. Et la nuit suivante, elle répandit des petits pois secs devant la boutique et attendit les lutins armés d'un balai. Lorsque les malheureux glissèrent sur les petits pois, la mégère se précipita au dehors et les chassa à grands coups de balai. Les petits lutins, écœurés par tant d'ingratitude, ne revinrent plus dans cette ville. Et les habitants, qui durent, dès ce jour, faire tous leurs travaux eux-mêmes, n'adressèrent plus jamais la parole à la femme du tailleur. Je lance un appel à ces petits lutins. S'ils veulent venir chez moi faire mon travail et le rangement, ils sont bienvenus. Enfin, je dis ça, mais je crois que j'aurais peut-être peur quand même de me dire que quelqu'un vient pendant que je dors. Et d'ailleurs, je ne crois pas que je pourrais dormir. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Je vous emmène maintenant dans un tout autre univers, en Afrique. Le maître du lac. Il y eut un jour, dans un village, une grande sécheresse. Tous les cours d'eau se tarirent. Pas une goutte de pluie ne tomba. Les gens du village tuèrent leur bétail, espérant extraire une goutte d'eau de l'herbe qu'ils avaient dans leur estomac, mais en vain. Un jour, le chef dit à son serviteur, « Mes papous, prends quelques personnes avec toi, du bétail, et beaucoup de calebasses, et va chercher de l'eau. « Autrement, nous allons tous mourir de soif. » Mais Papo prit les bœufs les plus forts, les hommes les plus habiles et toutes les calebasses qu'ils pouvaient porter et ils partirent pour chercher de l'eau. Ils marchèrent longtemps, longtemps, mais il n'y avait pas de traces d'eau nulle part. Ils arrivèrent finalement à une haute colline et Mais Papo y grimpa pour scruter les environs. C'est ainsi qu'il vit un grand lac en bas à ses pieds. Sans plus attendre, il courut au bord de l'eau et se baissa pour boire. Au même moment, il sentit un coup violent sur ses dents. Il essaya encore et reçut un nouveau coup. Il se mit alors à penser que le maître du lac ne souhaitait pas qu'il boive. Il appela donc. « Ô maître du lac, pourquoi ne me laisses-tu pas boire ?» Et une voix répondit. « Je te laisse boire, mes papos, mais promets-moi de demander à ton chef qu'il me donne sa ravissante fille, San Kepeng, comme épouse. S'il ne le veut pas, tout le village mourra de soif. » Mais Papo répondit, « Je te promets de faire comme tu souhaites. Maintenant, laisse-moi boire, ainsi que ceux qui sont avec moi, et tout le bétail, et permets que nous remplissions nos calebasses. » Le maître du lac y consentit, et Mais Papo but à n'en plus pouvoir, ainsi que ses hommes et le bétail, et après avoir rempli toutes les calebasses, ils rentrèrent chez eux. Lorsqu'ils arrivèrent, Mais Papo alla trouver le chef. « Nous avons apporté de l'eau comme tu nous l'as ordonné, mais le maître du lac veut que tu lui donnes ta fille San Kepeng comme épouse, sinon tout le village mourra de soif. » En entendant cela, la belle San Kepeng dit à son père, « Je ne veux pas que notre peuple souffre et meure à cause de moi. J'épouserai le maître du lac, puisque tel est son désir. » À peine avait-elle fini de parler que des torrents de pluie tombèrent du ciel et ne s'arrêtèrent que lorsque tous les cours d'eau furent remplis et que la terre desséchée eut reverdi. Les gens du village se réjouirent parce que San Kepeng les avait sauvés, et ils commencèrent tous à préparer son départ. Ils tuèrent leur bétail le plus gras et préparèrent la viande. Ils emplirent de nombreux sacs de farine de sorgho et choisirent les plus beaux jeunes gens et jeunes filles pour former l'escorte nuptiale, tout ceci sous l'œil vigilant de mes papots, car il était le messager du maître du lac. Enfin, tout fut prêt et ils partirent. Ils marchèrent longtemps, longtemps, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin au lac. Ils y laissèrent Senkepeng et rentrèrent chez eux. Elle s'assit au bord de l'eau et attendit son fiancé, le maître du lac. Mais personne ne vint. La nuit tombait et Senkepeng demanda à haute voix « Où vais-je dormir ?»« Ici, » répondit une voix. « Où, ici ?» demanda Senkepeng. « Ici, » répéta la voix. Senkepeng ne posa plus de questions, s'allongea dans l'herbe et tomba profondément endormi. Senkepeng vécut seule pendant très très longtemps. Elle avait tout ce qu'il lui fallait, mais elle n'aperçut jamais son époux. Quelque temps après, Senkepeng eut un fils et elle décida d'aller le montrer à ses parents. « Puis-je aller montrer le petit garçon à mes parents ?» demanda-t-elle. « Oui, tu le peux, » répondit la voix. Alors Senkepeng se mit en route pour son village natal. Les gens du village, en la voyant arriver, se mirent à courir en tous sens, en s'interpellant. « Senkepeng est venu nous voir. Regardez quel beau garçon elle a !» Senkepeng fit un long séjour, et lorsqu'elle se prépara à repartir, sa jeune sœur s'approcha d'elle et lui dit « J'aimerais venir avec toi. »« Viens donc, » répondit Senkepeng. « Je suis tout le temps seule. Comme cela, je le serai moins. » Rentrée chez elle, Senkepeng se tourna vers sa sœur et lui dit « Reste ici avec le garçon pendant que je vais chercher de l'eau. » Le petit garçon se mit à crier dès qu'elle les quitta et impossible de le faire cesser. La sœur de Senkepeng ne savait que faire pour le calmer et elle finit par le gifler. « Tais-toi, toi! Tu n'as jamais vu ton père, mais à la minute où ta mère s'éloigne, tu pleures comme si ton cœur allait t'éclater. » À peine finissait-elle ces mots que la porte s'ouvrit et un homme de haute taille, habillé d'un costume en fer chauffé au rouge, entra et prit l'enfant dans ses bras. « Pourquoi bats-tu ce garçon et pourquoi le grondes-tu ? Je suis son père. » Senkepeng revint à cet instant et fut très effrayée à la vue de cet homme étrange habillé de fer rouge et qui tenait son fils dans les bras. « Senkepeng, qui est ton époux ? » demanda l'étranger. « Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, » répondit-elle. « Je suis ton époux, je suis le maître du lac, » dit l'homme. Et c'est ainsi que Senkepeng fit son mari pour la première fois. Le maître du lac habilla son fils dans un costume de fer chauffé au rouge comme le sien, et il resta avec sa famille dans la maison, qui fut soudain entourée d'un grand village plein d'habitants, de bœufs, de vaches, de moutons et de paniers de sorgho, dont les gens du village firent de la farine. Senkepeng s'aperçut alors qu'elle était l'épouse d'un chef puissant, et ils régnèrent tous les deux sur un grand nombre de sujets. Avez-vous remarqué que l'on ne donne pas du tout le prénom du garçon ? Peut-être pour nous laisser l'imaginer. Merci Roland à la technique et à vous, je dis à bientôt. Au revoir.